Conversation secrète, Philippe Vasset, Pierre Gatineau. Aujourd'hui, le pays où les espions ont été rois, l'Algérie.
Je vous le disais en titre, conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et dans le cadre du strict respect de ces dispositions, le procureur général militaire près, la cour d'appel militaire de Blida porte à la connaissance de l'opinion publique qu'une poursuite judiciaire a été ouverte ce 5 mai à l'encontre des dénommés Atman Tortak, Mohamed Medien et Saïd Bouteflika et de toute autre personne que l'instruction viendrait à établir pour les chefs d'atteinte à l'autorité de l'armée et de complot contre l'autorité de l'État.
Les images ont beau être floues et prises de loin, elles sont proprement incroyables. On y voit les généraux Medien et Tartag, inamovibles chefs du renseignement algérien pendant près de 30 ans, monter lentement les marches du tribunal militaire de Blida, entourés d'une escorte de policiers.
Pour tous les Algériens qui manifestent depuis le printemps contre la réélection programmée d'Abdelaziz Bouteflika, ces images sont le signal qu'au pays où les espions sont rois, quelque chose est en train de changer. Car les services, en Algérie, font bien plus que du renseignement. Ils sont le garant du pouvoir, si ce n'est le pouvoir lui-même.
Il y a des traits généraux à l'ensemble des services arabes. Le premier, et là je pense qu'il faut le dire très vite, c'est qu'en fait les services arabes, et ça concerne l'ensemble de la région, sont là pour sauvegarder le régime. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des services de renseignement au sens où on l'entend en Occident, on est dans des services de sécurité. Donc déjà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les services dans le monde arabe sont là vraiment au service du pouvoir pour que le pouvoir se maintienne avec une mission qui est vraiment clairement défense du régime. Et ce qui font que ce sont des services qui ne sont pas du tout là pour faire de la recherche, du renseignement, de l'analyse, comme on peut voir dans d'autres pays, dans les pays occidentaux en particulier. Mais on va avoir des services avec un chef qui va être très proche du président ou du pouvoir, et avec comme mission principale de maintenir le système en place. Alors nous, on a une typologie qu'on a mise au point. On va avoir des services qui vont être soit outils du pouvoir, c'est-à-dire qui vont être utilisés par le pouvoir effectivement pour se maintenir. On va avoir des services qui vont être en co-gestion avec le pouvoir. Et puis avoir dans quelques cas, mais qui sont finalement pratiquement, ça dépend des périodes, qui vont être vraiment le pouvoir.
Ancienne responsable du bureau arabe de la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense français, Agnès Levallois est maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des services de renseignement arabes.
Alors, justement, il y a tout un débat sur l'Algérie. Moi, je pense que les services sont vraiment... c'est vraiment un double pouvoir, c'est une hiérarchie du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a les services et le pouvoir. Dans la période avec Bouteflika, on est vraiment dans la période où les services co-gèrent le pays avec Bouteflika jusqu'à 2015, lorsque Bouteflika décide la réforme des services, donc la fin du DRS, la mise à l'écart de Taoufik, de Médiane, qui est trop important. Mais pendant toute la période qui a précédé, donc les 25 ans, on a vraiment eu une co-gestion par les services et le pouvoir politique, avec un seul objectif, c'est de maintenir le système, c'est de gérer la rente économique, de se la distribuer entre soi. Et donc, il faut absolument, et les services sont là, et Médiane est là, pour permettre cette co-gestion avec Bouteflika.
À l'inverse de leurs homologues occidentaux, les services algériens ont longtemps décidé eux-mêmes de la politique à tenir. Mais leur pouvoir ne s'exerçait que derrière le voile opaque du secret défense, un brouillard de rumeurs invérifiables qui n'ont fait que démultiplier leur aura. Les espions algériens sont sans doute les seuls au monde dont le nom même est sujet à caution, comme l'explique Marc, un fournisseur d'équipements de sécurité truculent qui travaille avec eux depuis 20 ans et qui nous a demandé de ne pas utiliser son vrai nom.
Vous voyez aussi bien dans les médias algériens que ici, dans n'importe quelle pizzeria tenue par un Français d'origine algérienne, ils vont vous dire « Ah, moi, je connais, j'ai un oncle qui travaille, qui machin, l'ADRS. » Parfois, vous verrez le DRS. Après, ça a été le DSS. Hein, donc, l'ADSS, vous le trouvez un jour comme direction des services de sécurité, un jour comme direction des services de... autre chose. Bon, à ma connaissance et d'après les gens que j'ai bien côtoyés, c'est le DRS parce que c'est le département du renseignement et de la sécurité.
Successivement ambassadeur à Alger, puis coordinateur du renseignement à l'Élysée et enfin directeur de la DGSE, Bernard Bajolet a traité pendant plus de 10 ans avec les services algériens. Il a éprouvé, loin des rumeurs, la réalité de leur pouvoir.
De toute évidence, le DRS avait un pouvoir extrêmement important. Hein, j'étais reçu par le général Médienne, Taoufik, à plusieurs reprises. Je veux dire, je ne vous le cache pas, je prenais du plaisir à ces entretiens parce que c'était toujours extrêmement passionnant. Les analyses qui étaient faites étaient toujours des analyses très fines. Il n'y avait aucune espèce d'acrimonie, il n'y en a jamais eu, hein. On se disait des choses, hein, mais c'était toujours très très amical, très 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 chaleureux. Mais quand il s'agissait de coopérer de façon plus opérationnelle, eh bien c'était plus difficile. Par exemple, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, eh bien quand il fallait passer à des choses pratiques, c'était beaucoup plus compliqué.
Allô ?
Comment les maîtres espions algériens ont-ils créé cette nébuleuse invisible et surpuissante, souvent surnommée les décideurs, pour signifier que ce sont eux, et non les ministres à la une des journaux, qui détiennent la réalité du pouvoir?
Ce qu'il faut voir, c'est que les services en Algérie ont un rôle essentiel qui est issu de la guerre d'indépendance. Et ça, je veux dire, c'est un élément qui est absolument structurant dans l'analyse des services et qui en fait la particularité de l'Algérie par rapport aux services dans les autres pays de la région. C'est le seul pays qui est passé par cet épisode, si je puis dire, de la guerre d'indépendance. Et que les services ont commencé à exister en Algérie avant l'indépendance, puisque les services de sécurité ont commencé à exister pendant la guerre d'indépendance. Donc les services ont acquis une légitimité, si je puis dire, qui est issue de la guerre d'indépendance, comme les militaires ont eu cette légitimité issue de l'indépendance, de la guerre d'indépendance, et ce qui fait que du coup, la situation en Algérie est unique au sein du monde arabe de par cette histoire qui est cette guerre d'indépendance. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut mettre en place pour comprendre effectivement le rôle des services et de l'armée en Algérie et qui est différent du rôle des services et de l'armée qu'on peut voir dans les autres pays de la région. Donc l'ASM a eu dès le départ un rôle très important issu de cette guerre d'indépendance, avec le politique qui était quand même tous des anciens combattants de toute façon de la guerre, donc c'était le même système, le même milieu, les mêmes personnes qui travaillaient ensemble. Après, il y a eu une évolution de ce système, parce que comme toute vie politique, comme tout système politique, il y a des évolutions. Donc il y a eu le début de l'exploitation de la rente. Et donc, si vous voulez, ça a continué. Alors après, on est passé de l'ASM au DRS parce qu'il fallait effectivement réajuster. Mais je ne sais pas s'il y a un changement particulier à noter, si ce n'est que c'est l'évolution du système et de l'Algérie, si vous voulez, qui fait que on est passé de l'ASM au DRS et que de toute façon, ce qui est essentiel pour le DRS, comme ça l'était aussi pour l'ASM, c'est de toute façon être partie prenante à la gestion de l'État. Et la gestion de l'État, c'est la gestion aussi de la rente.
Cette cette naissance mythique des services algériens est mise en scène dans la bataille d'Alger. Le film réalisé par le communiste Gillo Pontecorvo, peu après l'indépendance et avec l'aide du nouveau gouvernement algérien. L'affrontement entre l'armée française et le FLN y est présenté comme une guerre de renseignement, menée pied à pied par les combattants clandestins d'Ali Lapointe d'une part et le colonel français Mathieu d'autre part. Le film décrit si précisément les techniques d'insurrection et de contre-insurrection urbaine qu'il est encore très régulièrement projeté aux apprentis espions du monde entier. En 2003, après la première guerre d'Irak, les officiers du renseignement militaire américain chargés de la lutte contre les insurgés à Bagdad étaient vivement encouragés à regarder la bataille d'Alger. 40 ans auparavant, les officiers de la CIA qui entraînaient les services argentins et colombiens à la contre-guérilla dans la célèbre School of Americas le projetaient également à leurs élèves.
Les seuls renseignements que nous ayons concernent la structure de l'organisation. Commençons donc par celle-ci. C'est une organisation à pyramide composée d'une série de sections. Les sections, à leur tour, sont formées d'une série de triangles. Au sommet de la pyramide est l'état-major. Le responsable militaire de l'état-major trouve l'homme qu'il juge apte et le nomme chef d'une section, numéro 1. Le numéro 1, à son tour, en trouve deux autres, numéro 2 et numéro 3. Ainsi se forme le premier triangle. À présent, le numéro 2 et le numéro 3 trouvent deux hommes chacun. Numéro 4, 5, 6 et 7. La raison de toute cette géométrie est que chaque militant ne connaît de l'organisation entière que trois membres maximum. Son responsable qui le choisit et ses deux subordonnés qu'il a lui-même choisi. Les contacts se font uniquement par écrit. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas nos adversaires. Parce qu'en réalité, ils ne se connaissent pas entre eux. Les connaître signifie les éliminer. Il en résulte que l'aspect purement militaire du problème n'est que secondaire. Celui qui est mis en évidence, c'est l'aspect policier. Je sais bien que ce mot ne vous plaît pas. Mais c'est le seul qui indique exactement quel type de travail nous devons entreprendre.
La bataille d'Alger montre des agents du FLN complètement intégrés à la population. L'indépendance obtenue, les services algériens sont restés présents dans tous les segments de la société, mais cette fois-ci, pour les régenter.
Les Algériens ont beaucoup appris des Soviétiques et ont transposé ça chez eux, ce qui leur donne une efficacité très concrète qui justifie à mes yeux cette image de service absolument omnipotent, absolument. C'est d'autant plus justifié que, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vraiment le cas, mais il y a 15 ans, il y avait ce qu'on appelle un BS, hein, un bureau de sécurité, dans chaque administration algérienne, dans chaque préfecture algérienne, dans chaque wilaya, il y avait un BS, y compris dans certaines grandes entreprises privées. Un BS, c'était un bureau composé de 2-3 personnes, dirigé par un officier, avec une secrétaire, un sous-off, et qui était là, et qui devait rendre compte de tout ce qu'il voyait. Alors, si c'était tenu par un type intelligent, ben, il faisait le tri. Si c'était tenu par un bas de plafond, le type racontait les histoires de fesses qui se passaient à la Sonatrach, etc. Mais en tout cas, ça faisait du DRS un organe qui était absolument omniscient et omnipotent.
Agnès Levallois.
Le DRS, pendant des années, avait un rôle essentiel. On sait très bien qu'il gérait non seulement la rente, mais tout ce qui était presse, communication, était complètement géré et contrôlé par le DRS, que toutes les nominations devaient avoir l'approbation du DRS. Donc il y avait vraiment un rôle central, rien ne se faisait. Alors après, il y a tout ce qu'on dit, tout le mythe et toute la réalité. Alors après, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'en Algérie, on vous disait, de toute façon, il n'y a pas une nomination qui ne se fait pas, importante évidemment, sans l'accord du DRS, mais pas que au plus haut niveau, aussi au niveau intermédiaire. Et il y avait, alors ça c'est encore plus ancien, mais il y avait cette peur de tous les membres des services et du DRS en particulier, Et il y avait une blague qui circulait en Algérie, que vous avez sûrement déjà entendue, qui était quand on voulait parler, alors c'était avant le DRS de l'ASM, la sécurité militaire, comme les Algériens avaient peur de prononcer ce mot, on disait sport et musique, qui voulait dire, et quand les Algériens entre eux voulaient parler de l'ASM, qui était donc l'ancêtre du DRS, parlaient de sport et musique pour ne pas avoir à prononcer sécurité militaire. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment un aspect, si vous voulez, très inquiétant pour les Algériens, parce qu'il y avait ce sentiment que de toute façon l'ASM et après le DRS contrôlait tout, savait tout, avait des relais absolument partout au sein de la société, parce que ça aussi c'est un élément qui est important, je crois, c'est que les services de renseignement dans le monde arabe, et ça on peut l'étendre à l'ensemble du monde arabe, disposent d'un réseau de correspondants au sein de la société qui ne sont pas forcément des gens qui sont payés par les services, hein, mais un réseau qui permet de savoir exactement ce qui se passe. Dans chaque quartier, vous avez plusieurs personnes qui sont là pour regarder, pour observer et pour rapporter les éléments qui sont convoqués toutes les semaines ou tous les mois, suivant la situation, pour raconter ce qu'ils ont vu. Et donc, ce système-là, c'est vrai que ça donne du coup un poids encore plus important au service, avec le sentiment, de toute façon, que vous ne savez pas si votre voisin est quelqu'un qui va aller régulièrement dire ce que vous faites ou autre. Et donc, ça crée ce sentiment aussi un peu de psychose dans certains cas, ou en tous les cas de vive inquiétude par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez.
Cette omniprésence des services va les placer dans des situations inattendues. Ainsi, c'est un lieutenant-colonel de la sécurité militaire, Hossine Senoussi, qui va se retrouver au milieu des années 80 à coproduire le premier album de la star du Rai, Khaled. Senoussi dirigeait à Alger le centre Riyad El Fateh, qui combinait lieux culturels, galeries commerciales et constructions mémorielles telles le Monument aux Martyrs. À la demande du producteur de world music français Martin Messonnier, c'est lui qui a aidé Khaled à obtenir un passeport pour aller chanter en France, puis a investi dans la production de Kouché, l'album qui allait faire du jeune chanteur des clubs d'Oran une star internationale. Cette omniprésence, combinée à une opacité savamment entretenue, a rapidement généré d'innombrables rumeurs sur les services algériens, objet de commentaires aussi savants que mal étayés.
Mais c'est pour ça que ce DRS, c'est l'objet de tous les fantasmes, évidemment, de toutes les suppositions, de tous les délires, et tout ça, de toute façon, reposant sur un fond de vérité. Mais comment savoir quelle est la part réelle des choses ?
Un homme, à lui seul, incarne la toute-puissance supposée des services algériens. Le général Toufik Médiane, qui a dirigé le DRS pendant 3 décennies, avant que la récente vague de manifestations ne contraigne le pouvoir, soucieux de rompre avec le passé, à l'incarcérer. Pendant très longtemps, il n'existait que 2 photos de lui, et les informations à son sujet restent très parcellaires. On sait seulement, détail capital, qu'il est un grand amateur de football.
Toufik a assis son pouvoir dans les années 90, alors que l'Algérie était en proie à une vague de terrorisme meurtrier, appelée aujourd'hui la décennie noire. Durant cette période, les services ont été accusés de laisser prospérer certains groupes djihadistes, voire de les encourager. Cette thèse sera largement alimentée par plusieurs officiers du renseignement algérien réfugiés en Occident, qui témoigneront dans la presse et surtout à la télévision française dans plusieurs reportages chocs.
Jean-Baptiste, qu'est-ce qui fait que tu as des doutes, toi, sur la version officielle et que tu te mets à enquêter ?
En fait, ça commence en 97. Tu sais, il y a eu des gros massacres de civils en Algérie qui ont beaucoup choqué tout le monde parce que c'était fait aux portes des casernes. Alors, Alger disait c'est les islamistes, mais on avait un peu des doutes. Et à ce moment-là, il y a des officiers des services secrets algériens, un peu dégoûtés, qui balancent dans la presse européenne que les massacres, l'armée est impliquée et que les bombes à Paris avaient été commanditées par les services secrets algériens. Donc ça, c'est novembre 97. Donc là, on commence à se dire qu'est-ce que c'est que cette histoire.
Mais c'était la presse anglaise à l'époque qui avait sorti ça.
C'était d'abord la presse anglaise, puis Le Monde à Paris quelques jours plus tard. Donc 2 officiers qui disent c'est les services algériens, c'est nos services qui ont commandité commandité les attentats de Paris. Et au printemps de cette année, il y a eu un truc assez déterminant, c'est qu'il y a un militaire algérien qui sort du pays, qui s'enfuit et qui dit « La hiérarchie m'a demandé de devenir l'adjoint de Zitouni ».
Près de 20 ans plus tard, et alors qu'aucune enquête nationale ou internationale n'a jamais démêlé les responsabilités de chacun dans cette crise, les opinions restent très tranchées. Ainsi, notre témoin Marc défend la direction du DRS avec laquelle il travaille depuis 20 ans.
Sur le DRS, bon, c'est comme pour toute chose en fait. Dès que vous attaquez un sujet, il y a ce qu'on sait, mais de façon certaine, parce que vous l'avez vu vous-même, parce que vous connaissez vous-même, parce que votre source est en contact direct et elle a une fiabilité que vous avez testée. Et puis, est-ce que vous ne savez pas ? Eh bien, quand vous ne savez pas, vous fonctionnez en termes de probabilité et d'improbabilité. Alors, je vous donne un exemple. Bentala, le fameux massacre de Bentala en 97. Moi, c'est un patron de pizzeria qui me dit, moi, j'ai un oncle DRS, hein, Bentala, les services ont laissé faire, l'armée a laissé faire, parce que comme ça permettait, vous savez, c'est le fameux Kituki, hein, le DRS instrumentalisait les terroristes et les laissait commettre des massacres parce que ça permettait de justifier le maintien de la loi martiale et donc l'armée au pouvoir, etc. Bon, probable ou improbable ? Alors, si on ne sait pas les choses, on se dit, c'est vrai, il y a eu une caserne qui était pas loin du quartier de Bentala, et en toute une nuit, les militaires sont pas sortis de la caserne. C'est pas bien. Donc ça peut laisser penser qu'ils ont laissé faire. Mais n'oublions pas que l'armée algérienne n'est pas une junte. L'armée algérienne est une armée de conscription. Donc dans cette caserne, il y avait des appelés. Et des appelés, vous leur demandez pas de cautionner l'assassinat de leur mère, de leur sœur, de leur tante, de leur fille. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on est une junte, qu'on est un milieu fermé et complètement déconnecté des réalités et de la population. Vous demandez pas ça à des appelés. Donc ça, déjà, pour moi, ça le rend improbable. Quand ensuite, vous savez que c'était un mode d'action privilégié par les terroristes de créer un abcès de fixation pour attirer l'armée en dehors des casernes, les amener à intervenir. Sur le chemin de l'intervention, ils tombaient dans une embuscade. Et pendant ce temps-là, un autre groupe terroriste attaquait la caserne qui avait été vidée de ses troupes pour aller s'emparer de l'armement. Donc l'état-major avait donné des directives très fermes pour que la troupe ne sorte pas de la caserne tant qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation ou l'ordre. Donc quand vous comprenez, vous mettez tout ça un petit peu bout à bout, eh ben, je ne sais pas, j'étais pas à Bentala, j'étais pas dans les états-majors qui ont pris les décisions. Je crois extrêmement improbable qu'une armée de conscription, sachant en plus les modes d'action des terroristes, je crois très improbable que les services et l'armée aient cautionné ce massacre. Il faut bien leur accorder une chose, c'est qu'avec la décennie noire, ils ont quand même traversé une période pendant laquelle des femmes, des enfants ont été massacrés, où on les a accusés de tous les maux et injustement. Avec des gens qui devaient combattre un ennemi protéiforme, avec infiltré partout. Vous savez, on dit que tous les généraux et commissaires qui ont été tués pendant la décennie noire l'ont été avec la complicité directe ou indirecte de leurs chauffeurs. Vous avez des gens qui ont eu leurs enfants tués par les fils de la famille voisine avec lesquels ils jouaient tous les jours. Enfin, c'était une période qui était très difficile. Et on a demandé à ces officiers du DRS de faire le ménage. Donc, à partir d'un certain moment, si vous voulez, les modes d'action naturels et humanistes suffisent plus. Donc c'est facile, je pense, a posteriori, de dire « Ah, oh, ils se sont salis les mains ». Le tigre, le surnom de Bachir Tartag, hein, par exemple, qui était très réputé pour avoir eu la main lourde. Oui, peut-être, mais quand vous voyez vos amis ou vos enfants ou des gens qui sont massacrés, bon ben parfois ça peut justifier qu'on manque un petit peu de qu'on n'ait pas forcément envie de faire dans le détail, quoi.
Contrairement à la guerre d'indépendance, déjà mise en scène des deux côtés de la Méditerranée, la décennie noire reste un trauma qui se ressent jusque dans la fiction. Pas de films, peu de livres, mis à part le premier polar de Yasmina Kadra, Morituri. Seul le cinéaste Xavier Beauvois, dans Des hommes et des dieux, replongera dans cette période pour évoquer la vie des moines trappistes de Tibirine, assassinés dans des conditions non encore élucidées en 1996. La responsabilité des services algériens dans cet épisode reste très floue, et le face-à-face, dans le film, entre les moines et le responsable du DRS qui les enjoint à quitter le pays, est lourde menace.
Ne rigole plus. Les consignes deviennent très sérieuses. Vous savez bien que personne d'autre que nous peut nous décider à quitter ce pays. Ah, ça m'aurait étonné. Vraiment étonné. Mais votre entêtement devient dangereux. Regardez ces gens dehors. Ils sont chez eux, c'est leur pays. Ils sont terrorisés par ce qui se passe. Ils rêvent tous de partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils n'ont ni le choix ni les moyens. Et croyez-moi, ce n'est pas de la lâcheté de vouloir partir. C'est juste vouloir continuer à vivre libre. Si ce n'est pas Fayatia qui vous tue, ce sera quelqu'un d'autre. Nous sommes dans une période trouble que personne ne maîtrise complètement. Si vous restez, votre communauté ne sera qu'un pion parmi d'autres. Votre sacrifice aura un arrière-goût de manipulation. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai de l'estime pour vous. Et pour ce que votre communauté a fait dans ce pays. Je vous demande de rentrer en France.
Cette décennie noire marque en tout cas l'apogée du pouvoir des services algériens, qui n'ont jamais été aussi puissants que lorsqu'ils ont été en première ligne. En outre, la guerre indiscriminée qu'ils mènent aux groupes djihadistes actifs dans le pays leur confère une réelle aura auprès de leurs partenaires étrangers.
S'il y a une chose que les services arabes ont très bien compris,
Agnès Levallois,
c'est comment gérer la relation avec les Occidentaux sur la question du terrorisme. Ils peuvent faire avaler absolument tout et n'importe quoi au nom de la lutte contre le terrorisme. Alors ça, c'est un terrain de coopération qui est parfaitement bien manipulé par les services arabes à l'égard des services occidentaux.
C'est-à-dire
C'est-à-dire de mettre en avant, si vous voulez, le danger de ce que représente le terrorisme. Et à partir de là, comme les services arabes savent très bien que c'est l'angoisse numéro un des services occidentaux, ils vont leur servir exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. Et comment gérer cette carte? En donnant un minimum aux services occidentaux pour leur faire plaisir et leur montrer qu'une coopération était possible, pour complètement les rouler dans la farine par derrière, en donnant uniquement ce qu'ils avaient envie de donner, mais en faisant quand même croire que, et en essayant du coup de faire passer tout et n'importe quoi. Donc cette gestion de la lutte contre le terrorisme par les services arabes, je crois, est très, très, très bien menée de leur point de vue, en sachant très bien exactement ce qu'il faut dire ou éventuellement ce qu'il faut donner à un moment précis pour pouvoir obtenir beaucoup plus après. Ça peut être de la formation, ça peut être de la coopération, mais en termes de technique, mais pour des fins qui sont avant tout des fins correspondant à leurs intérêts et pas forcément aux intérêts de la, d'une coopération, bien entendu. Les services arabes ont du mal à coopérer, c'est-à-dire que pour coopérer, il faut avoir confiance. Et si la confiance n'existe pas, c'est vrai, c'est extrêmement compliqué. Et de cette manière, les services maghrébins vont beaucoup plus coopérer avec les Occidentaux, les Européens, éventuellement les Américains, mais là, en sachant très bien ce qu'ils peuvent obtenir. Donc c'est vrai que la question de la coopération est un chantier en soi pour les services arabes.
L'allié du DRS a été la DST, bien sûr, avec certains de ses chefs bien connus. Les services algériens ont toujours eu le souci quand même de pas être taxés, de couvrir les terroristes, de les aider. Ils ont eu le souci aussi de couper court à ces accusations de Kituki. Hein, et pour ça, la DST était pour eux un allié avec lequel ils étaient assez coopératifs. Et en pointe de cette relation avec la DST, il y avait Smaïn Lamari, qui était le patron de la direction du contre-espionnage, qui est mort en 2007 et qui a été un des meilleurs amis de la DST pendant très longtemps. Donc il y a eu, oui, une vraie coopération et relativement sincère entre la DST et le DRS à ce moment-là.
Mais la manière particulièrement brutale dont les services algériens gèrent cette lutte contre le terrorisme a fini par les placer en porte-à-faux vis-à-vis de leurs partenaires occidentaux qui, à la fin des années 90, on commençait à craindre d'être associé de trop près à une institution soupçonnée de nombreuses exactions.
Même si les services algériens sont des services, comme on les a décrits, extrêmement autoritaires, extrêmement puissants, ils ne peuvent pas non plus complètement s'abstraire, même des discussions qu'ils devaient avoir avec des services occidentaux à l'époque, avec la France, avec les Américains, avec d'autres services avec lesquels ils collaboraient, qui devaient quand même aussi leur dire « Attendez, là, il y a quand même des choses qui vont peut-être un peu... » Je pense que c'est plutôt du réalisme. Je suis pas sûre que se dire « Bon, on est issu de la guerre d'indépendance, il y a des choses qu'on fait pas. » Quels étaient leurs intérêts et est-ce qu'ils pouvaient après s'en sortir ? Moi, je pense que c'était plus pour sauver leur peau et sauver la gestion. On en revient toujours à la même chose, la gestion de la rente. Est-ce que si on va trop loin, on va pas tout perdre ? Et nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est garder ce contrôle. On veut garder la mainmise. On veut continuer à être l'élément ou un des éléments essentiels du système politique, du fonctionnement du système politique. Et si on va trop loin, on va peut-être quand même payer un prix beaucoup trop cher. Donc, on se ménage et on se garde une porte de sortie. Moi, c'est plutôt ça que je verrais qu'un sentiment un peu de réflexion. Mais bon, je pense que pour eux, ça a été de se dire que justement, ils préservaient leur impunité en faisant ça. Je crois vraiment que la décennie noire, quand même, a été une période telle que la priorité, ça a été de gérer cette situation qui a quand même été un vrai traumatisme pour les Algériens. Et que donc, du coup, ils avaient beaucoup moins de capacité de projection à l'extérieur parce qu'il fallait gérer la situation en interne avec des défis quand même majeurs. Et avec, on l'a bien vu, même si on n'a pas toujours les éléments, mais de tension au sein même du système algérien pour savoir comment gérer cette période de la décennie noire. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Alors Bouteflika, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lui, ça a été de justement remettre l'armée à sa place, essayer de remettre les services à leur place. Et donc, il a été pendant plusieurs années, je pense, complètement mobilisé dans cette volonté de reprendre le dessus, c'est-à-dire que ce soit le politique et que ce soit lui qui gère en mettant au pas l'armée avec laquelle il avait des comptes, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, mais les services, pour éviter que les services ne lui fassent trop d'ombre. Lui, revenant, il voulait absolument avoir les mains libres. Et donc, pendant des années, il a quand même travaillé aussi à cela pour imposer son pouvoir et faire en sorte que le DRS n'ait pas tous les pouvoirs et ne puisse pas donc l'empêcher dans ce que lui voulait faire et sûrement aussi, la répartition de la rente.
Dans tous les pays arabes, les dirigeants, qu'ils soient présidents ou émirs, prennent grand soin d'organiser une concurrence entre leurs divers services de renseignement afin qu'aucun ne devienne trop puissant. À son arrivée à la tête de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika a repris cette vieille recette à son compte et mis les services, alors omnipotents, en concurrence avec l'armée. C'est ce que nous raconte Marc, à cette époque, au plus près du pouvoir.
En 98, hein, quand il a fallu aller se chercher un nouveau président plus civil, on parlait de trois piliers. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que, bon, on disait trois piliers, la présidence, mais qui est fait par les deux autres, qui sont l'armée et le DRS. À cette époque-là, bon, l'armée et le DRS étaient unis. Depuis 90, le DRS était rattaché au ministère de la Défense. Donc, l'armée et le DRS étaient vraiment unis. Donc, on peut parler de trois piliers, si vous voulez, pour distinguer les structures et pour distinguer le DRS de l'armée, parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes missions. Et puis, le DRS avait une sorte de pouvoir propre, hein, même s'il émane de l'armée et que ses personnels sont fournis par l'armée. La présidence était le pilier faible, hein, puisque les présidents étaient faits. Par l'armée et le DRS qui décidaient, ben, on va mettre celui-là. C'est pour ça qu'avant, ils mettaient pas mal de généraux. En 98, ce qui s'est passé, c'est qu'on était... il y avait la campagne du Kituki qui avait évolué en risque de tribunal pénal international pour l'Algérie avec ce fameux dossier des 7800 disparus. En fait, on dit 7200, mais il y en a eu 7800 réellement. Ce dossier des 7800 disparus qui faisait craindre aux généraux algériens un tribunal pénal international. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bon... on nous taille des croupières parce qu'on passe pour une junte. Il faut absolument qu'on se dote d'un pouvoir civil. Donc cette fois-ci, au lieu de coopter l'un d'entre nous et de mettre un général à la tête, il faut qu'on se trouve un civil qui garantisse les intérêts de l'armée et qui fera ce qu'on lui dit. Et là, ils se sont dit, ah ben... justement, il y en a un là qui est en exil parce qu'il est parti avec la caisse, qui a pas brillé pendant la guerre d'indépendance parce qu'il a déserté deux ou trois fois, mais comme il était protégé par Boumédienne, il a quand même fait une belle carrière de ministre et de très jeune ministre. Il se prenait pour un commandant de la LN, donc on va pouvoir le tenir en main. Et là, erreur de casting complète, parce qu'ils ont sous-estimé la mégalomanie de Bouteflika, et ils ont été le chercher. Ils ont eu des indices quand même, hein, d'après ce qu'on avait entendu à l'époque, par certains généraux qui l'avaient choisi. Il paraît que dès 99, ils disaient « je veux hein, », puisque vous savez que les élections en Algérie sont faites par le DRS et le ministère de l'Intérieur, qui font les chiffres à la demande du président. Et donc, il avait dit « je veux un score supérieur à Bourguiba, je veux 95%. » Et là, il y avait des généraux qui avaient dit « bon, allez, arrêtez-le, renvoyez-le, celui-là, parce qu'il va nous agacer. » Et puis d'autres ont dit « non, on n'a pas d'alternative pour l'instant, on va lui filer ses 93%, et puis il sera content. » Et c'est comme ça, si vous voulez, que les deux piliers qui étaient l'armée et le DRS ont fait le troisième Bouteflika. Et c'est réellement devenu un pilier parce que en 2004, eh bien, comme c'est quelqu'un de très très malin, il a su jouer le DRS contre l'armée. Et pour arriver à être réélu en 2004, là où tout le monde annonçait Benflis gagnant, y compris les services d'ailleurs, hein, Boutef a joué le DRS contre l'armée. L'armée dirigée à l'époque par Mohamed Lamari, qui était un grand costaud, très charismatique, mais que Boutef insupportait et qui le cachait pas. Et de l'autre côté, un Médienne qui est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, très calculateur, très fin, mais qui évite tout ce qui est coup de gueule et de taper sur la table. Donc deux caractères très différents, avec peut-être un Lamari qui pouvait un petit peu gêner les ambitions de Toufik. Hein. Avec Yazid Zerrouni, qui était le ministre de l'Intérieur, on fait gagner Boutef. À partir de ce moment-là, et quand Mohamed Lamari a claqué la porte de dépit, eh bien, vous voyez, il y a dans les milieux introduits, on disait « Toufik a trahi ». À partir de là, on pouvait vraiment parler de trois piliers distincts cette fois-ci, parce que Gaïd Salah, c'était pas du tout la même mouvance que le DRS, c'était pas le même pouvoir du tout que Mohamed Lamari, son prédécesseur, et que le DRS. Et là, à ce moment-là, il y avait bien ces trois piliers, mais le pilier le plus fort était à ce moment-là le DRS, avec ensuite la présidence qui était montée, et Gaïd Salah qui était aux ordres. Par la suite, les choses ont encore évolué, et puis ça a été un jeu de pouvoir entre ces piliers qui explique ce qui se passe aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que le pilier le plus fort a été, ces dernières années, a été la présidence, qui a réussi à ramener le DRS à un rang subordonné. Et puis aujourd'hui, eh ben, c'est la revanche de Gaïd Salah. Donc vous voyez, c'est le jeu de trois piliers maintenant.
Bernard Bajolet.
Le DRS, c'est le moment où j'étais encore en fonction de la DGSE, a été démantelé. Et le président Bouteflika, quand j'étais ambassadeur à Alger, m'avait dit peu de temps avant mon départ qu'il trouvait que les services avaient trop de poids, trop d'importance, et que par exemple, il était obligé de s'en remettre à eux pour des nominations importantes. Vous voyez, donc je pense qu'il y avait quelques les relations personnelles entre le président et les chefs des services. Il y avait un problème de pouvoir et qui s'est traduit dans la perspective de la succession, qui s'est traduit par le démantèlement de ce service important qui était la DRS, avec la création d'un poste de coordinateur, donc c'est le général Tartak qui l'occupait auprès de la présidence, et en fait la division du service en deux branches.
Une fois la situation intérieure du pays stabilisée, le renseignement algérien a pu se renforcer hors de ses frontières, notamment en Afrique.
À ce moment-là, le DRS était capable d'intervenir sur la frontière, y compris de l'autre côté de la frontière, notamment en infiltrant des gens. Ils avaient des officiers qui arrivaient à parler à Mokhtar Belmokhtar et à des leaders d'ACMI et aller avec eux de l'autre côté de la frontière, au Mali. Donc ils connaissaient leur camp, leur zone, etc. Donc le DRS était bien renseigné. Ils ont toujours considéré de toute façon cette zone, hein, le Sahel, à proximité notamment des frontières algériennes comme leur précaré. Et c'est pour ça qu'on a pu les taxer à un moment donné de ne pas être très coopératif dans les opérations qu'on voulait mener parce qu'ils considéraient qu'on marchait dans leur jardin, quoi. Donc voilà un petit peu pour les actions.
Et là où il y a eu le traumatisme, c'est In Amimas. Ça, je crois que ça a vraiment été un moment quand même qui a été très, très dur pour les Algériens, qui se sont rendus compte qu'effectivement, le fait d'avoir, de s'être moins intéressé à leur environnement régional, ben, ils le payaient très cher, hein, parce que la priorité n'avait pas été mise pour justement surveiller comme il le fallait ces mouvements qui se baladent au Sahel et dans une région. Effectivement, comment voulez-vous se contrôler de façon sérieuse un désert aussi grand avec des frontières aussi, ces centaines de kilomètres de frontières? Donc là, il y a une volonté, du coup, de reprendre quand même de l'intérêt pour, en particulier, la région sahélienne. Et là, on voit à nouveau quand même les Algériens qui sont à la manœuvre pour essayer de régler. On les a vus dans le cadre avec la diplomatie algérienne qui, pour le coup, s'est intéressée à la question du Mali. Qui était aussi une façon donc d'apporter une réponse à la question sécuritaire qui avait été mise à mal par l'attaque du site pétrolier en 2013. Alors, avant le déclenchement des manifestations là, il y a quelques mois, il y avait quand même un intérêt qui était manifeste de la part des Algériens de s'intéresser au Sahel, avec une obsession qui était éviter que la France, qui jouait un rôle important de cette région, rejoue un rôle. Et ça, pour les Algériens, c'était pas supportable et c'était pas acceptable que la France, à leurs yeux, profite de cette situation pour être à nouveau beaucoup plus présente au Sahel avec le rôle que joue effectivement la France avec l'opération militaire. Et donc ça, c'est vrai que ça a fait quand même réagir l'Algérie, qui s'est dit que c'était elle qui était quand même la puissance régionale en mesure normalement de faire quelque chose, et que là, la France, fallait donc faire attention et ne pas permettre à la France d'en faire trop.
À la tête de la DGSE à cette époque, Bernard Bajolet a dû gérer cette réticence des services algériens à voir la France évoluer à ses frontières.
J'ai toujours été reçu quand j'étais coordonnateur du renseignement et ensuite comme DGSE de façon extrêmement chaleureuse à Alger. Les entretiens que j'avais étaient toujours passionnants, intéressants. Les Algériens ont une très bonne expertise sur un certain nombre de sujets, dont par exemple le Sahel qui nous intéresse beaucoup, la Libye qui nous intéresse beaucoup. Alors de là maintenant, la coopération est toujours très délicate parce que il y a une grande méfiance qui est historique à l'égard de la France et de la DGSE plus particulièrement. Alors le service intérieur était persuadé d'avoir une coopération plus aisée pour des raisons historiques. Je suis pas sûr qu'elle ait produit davantage de résultats entre nous. Hein. Donc on avait ces entretiens intéressants, mais j'ai toujours eu le sentiment d'une certaine réserve due à cette méfiance un peu historique. Et donc la coopération en matière de lutte contre le terrorisme n'est pas si facile que ça. Je me suis même demandé à un certain moment, je ne vous le cache pas, si les Algériens n'avaient pas intérêt au fond au maintien d'un terrorisme résiduel en Algérie qui permettait de justifier les pouvoirs exceptionnels de l'armée. Hein, parce que, je peux vous le dire, à certains moments, on m'a demandé des renseignements sur la localisation d'un certain nombre de terroristes que nous avons fournis, mais qui n'ont pas été utilisés. Bon, et puis, sur le Mali aussi, où l'Algérie a joué un rôle très important dans les accords d'Alger, ensuite, on a eu le sentiment d'un moins grand engagement pour la mise en œuvre de ces accords, comme si, au fond, l'Algérie voyait tout à travers le prisme de l'influence française et nous prêtait des ambitions, enfin des desseins que nous n'avions pas. Parce qu'au fond, ce qui nous intéressait, nous, c'est une seule chose, c'est la stabilisation de l'Afrique du Nord et la stabilisation du Sahel.
Mais le Sahel n'est pas la seule zone d'opération extérieure des services algériens. Depuis la guerre d'indépendance, ceux-ci comptent parmi les mieux renseignés sur la France.
Je pèse mes mots quand je dis que le DRS est capable de lancer une opération sur le territoire français ou en Allemagne, par exemple, puisque vous avez le cas de l'assassinat de Halim Sili. Alors, bien sûr, la justice a tranché d'une certaine façon, mais en 87, bon, il y a peu de gens qui n'octroient pas cet assassinat au DRS. De la même façon, vous avez Krim Belkacem à Francfort qui avait été assassiné en 70 et limite si ce n'était pas revendiqué par le DRS. Hein. Donc, au sein de l'ambassade d'Algérie à Paris, vous avez forcément un représentant du DRS, qui a longtemps été le colonel Ben Daoud, devenu ensuite, qui est aujourd'hui général-major Ben Daoud, bien connu, et qui a récemment fait un passage de un mois à la tête de la DDSE. Ben Daoud était quelqu'un qui animait un réseau. Ça vous prouve bien qu'ils ont de très fortes capacités. Un autre général du DRS disait qu'il y a eu un très gros problème de santé et qui a réussi à le résoudre, avait réussi à obtenir des rendez-vous médicaux, de scanners, dans des délais que ni vous ni moi nous n'aurions eu, et qui disait ça c'est l'Algerian Connection. Donc là on est plus dans le domaine professionnel, mais c'est privé, mais pour vous dire quand même qu'ils ont des moyens, ils peuvent actionner des moyens, en France notamment, qui sont considérables, s'ils le veulent. Certaines personnes ont même pensé qu'ils voulaient influer sur le destin politique de la France, parce que certains ont de l'argent, parce qu'ils ont des amis. Maintenant, le problème en France, si vous voulez, c'est pour influer, il faut y comprendre quelque chose. Je suis pas sûr qu'ils aient la finesse d'analyse pour toujours bien comprendre ce que veulent nos politiques, d'où ils viennent, ce qu'ils font et où ils vont.
L'entrisme des services algériens en France et les liens très forts qu'ils ont réussi à tisser avec leurs homologues du renseignement intérieur à Paris a fini par susciter un véritable syndrome algérien au sein de la DGSE, le service extérieur français. Longtemps tabou, la méfiance de la DGSE envers ses homologues algériens est très justement illustrée dans la première saison du Bureau des légendes, la série réalisée par Éric Rochant et diffusée par Canal+. La représentation des responsables du renseignement algérien dans la série est particulièrement glaçante. Mobilisant toutes ses ressources pour retrouver l'un de ses agents disparus à Alger, on y voit la DGSE échanger des renseignements avec un général algérien à la retraite, le général Kerbouche, qui leur explique, très digne, le piège orchestré par ses collègues.
Pas fiable votre Benafa. Dépressif, sous médicaments. Franchement, j'espère que vous en avez des plus costauds. Il a été arrêté il y a quelques semaines en état d'ivresse. Embarqué au commissariat, il a commencé à déblatérer, à gueuler. Je suis un agent français, j'ai trahi mon pays. Les policiers ne le prennent pas au sérieux, pour eux ce n'est qu'un... un ignorant de plus. Mais un des policiers a un cousin qui travaille au DIM, le département d'infiltration et de manipulation des services de sécurité. Il appelle son cousin. Il lui fait part de cet ignorant qui se dit être un espion français. Son cousin débarque. Il écoute Ben Arfa. Et il décide de l'exfiltrer du commissariat. Il emprunte un de ses nombreux souterrains qui relient beaucoup de bâtiments officiels. Et il le livre à son chef. Et c'est là que la chance a quitté votre ami Ben Arfa. Et c'est là que la chance vous a quitté, vous, la DGSE. Le chef du cousin, c'est le général Lefkir.
Un vrai psychopathe.
Un dur. Un intrigant. Élevé au lait du KGB, comme moi. Lefkir, qu'est-ce qu'il va faire de cet agent français qui lui tombe sur la tête comme une noix de coco? Il vous le vend? Il vous le rend? Non. Lefkir a un agent infiltré dans un groupe salafiste... État islamique du Sahel. Pour le crédibiliser, il lui fait cadeau de votre pauvre Ben Arfa. Son agent va organiser un faux enlèvement et livrer Cyclone aux salafistes. Un agent français. Vous vous pensez.
Où est Ben Arfa maintenant?
Pour l'instant, dans les mains de l'Efkir. La livraison est prévue dans 4 ou 5 jours. Si vous voulez récupérer votre agent, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Après, il sera exécuté. Et les images vont défiler sur tous les téléphones portables de Saint-Saint-Denis.
Qui a saisi tout le pays au printemps, va-t-il reléguer ce type de manœuvre au passé? Les observateurs les plus chevronnés, comme l'ancien directeur de la DGSE Bernard Bagelet, ont envie d'y croire.
Ce qui se passe, c'est un moment, un grand moment, c'est un moment que je trouve extraordinaire. Moi, ce qui me frappe, c'est la grande retenue, la grande maîtrise dont font preuve les manifestants. Et aussi, d'une certaine façon, le régime, même si on a constaté au cours des dernières semaines un début de répression. Mais pour ma part, je considère que ce mouvement, c'est une chance pour l'Algérie, qui est en train de créer quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore, évidemment, ceci n'est pas sans danger. Hein. Il y a toujours dans ces grands changements une part de risque. Mais pour ma part, j'y vois surtout de l'espoir, d'un changement profond qui est conduit par le peuple algérien lui-même. Et je pense qu'il faut lui faire confiance et qu'il faut aussi lui donner du temps, que des leaders ne manqueront pas d'émerger de ce mouvement. Donc voilà, c'est ça, faisons confiance.
Quelle que soit l'issue politique du mouvement populaire qui secoue actuellement l'Algérie, la mise à l'écart de Médienne, Tartag et consorts ouvre la voie à une nouvelle génération de maîtres espions formés dans d'autres capitales que Moscou et dotés d'autres réflexes que ceux qui ont régné sans partage depuis plus de 30 ans sur le renseignement algérien.
L'opacité qui règne autour de ce système, de qui fait quoi, de cette grande difficulté à savoir vraiment précisément comment les choses se font, ça c'est un héritage. Maintenant je crois que les choses vont commencer à changer parce qu'il y a un changement de génération. Et ça je crois que c'est un élément aussi très important qui va imprimer aussi le système politique algérien qui va forcément évoluer. Puisque vous avez un changement de génération, vous avez toute la période... Tous les cadres issus de l'indépendance, ça y est, ils disparaissent les uns après les autres par la force des choses. Et donc vous avez maintenant une autre génération qui émerge, et alors qui a été formée dans ce système opaque, dans cette tradition, mais en même temps avec aussi d'autres réflexes, d'autres habitudes et d'autres... Donc je crois que toute cette période, si vous voulez, de l'indépendance est en train de disparaître. C'est aussi peut-être pour ça qu'on voit un Gaïd Salah qui est en train de vouloir garder à tout prix le contrôle, la maîtrise, parce qu'il sait très bien que de toute façon il est un des derniers de cette période. Et que derrière, il y a une génération des quadras qui pousse sérieusement, qui veut maintenant avoir accès aux affaires, qui estime qu'elle est compétente, qu'elle a été formée, et donc elle veut absolument aussi maintenant prendre ce place et accéder aux manettes. Et donc là, je pense que c'est un point et que l'on voit aujourd'hui dans le cadre de la transition qui est en train de se passer en Algérie. Ça, on le sent aussi, cette question de génération, qui à mon avis est quand même un élément essentiel. Alors, quelle visibilité on a sur ces nouveaux cadres qui arrivent, c'est assez compliqué à dire aujourd'hui. Mais je crois que c'est ça qu'il faut observer dans les semaines et dans les mois à venir. Il y a une génération qui apparaît aussi dans l'armée, dans les services. Dans l'armée, alors dans les services, je sais moins, parce que c'est plus compliqué à savoir, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui ont été formés aux États-Unis quand même. Donc ça veut dire aussi là qu'il va y avoir des changements, des évolutions dans ce qui va se passer. Et ça ne va pas être simplement une formation, j'allais dire, monolithique, comme c'était le cas auparavant avec le KGB qui a largement formé les services algériens, mais que là il peut y avoir quand même des évolutions qui se font.
Merci à Agnès Levallois, Marc et Bernard Bajolet. Mixage Pierre-Henri, réalisation Rafik Zénine. C'était Le pays où les espions ont été rois, l'Algérie, dans la série de Philippe Vasset et Pierre Gatineau, Conversation secrète.
S'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs.